Et Guillaume va nous parler d'une expérience assez particulière dans laquelle il est actuellement.
Bonjour.
Tu étais déjà intervenu dans quelques émissions auparavant, mais surtout, quelle est actuellement justement une de tes activités dans le cas qui nous concerne ?
Alors actuellement, on va dire que ça fait très écho avec l'actualité. C'est-à-dire, je travaille avec une équipe, hein, pas tout seul. On est une équipe de 7 à travailler sur un respirateur artificiel parce qu'il y a eu un appel à projet, un challenge au niveau mondial, Agorize, qui faisait un appel pour constituer des équipes pour répondre à la nécessité et le manque en fait de respirateurs artificiels et donc de proposer des conceptions de respirateurs artificiels. Et les 3 projets sélectionnés en fait vont être diffusés à grande échelle partout dans le monde.
Pour information d'ailleurs, pour pouvoir tenir le choc du Covid, il faudrait 14 500 respirateurs artificiels en France. On en a actuellement 5 000 dans les hôpitaux. Et là où c'est plutôt blessant, c'est qu'en 2009, lors du précédent inventaire qui a été fait justement dans les services hospitaliers, on en avait 11 000. Il y en a qui ont disparu ou qui n'ont pas été entretenus.
C'est des vieux.
Ou des lits qui ont été fermés.
Eh oui.
Donc en fait, le but du jeu, c'est transformer en général ce qui existe déjà. C'est construire de zéro ou bien partir à partir des respirateurs manuels, les espèces de pompes que l'on a.
Alors, en fait, l'appel à projet en lui-même, il est assez large. C'est chaque équipe a le libre choix de sa proposition. Donc, il y a plein de projets qui sont en train d'être soumis. Il y a des projets qui sont beaucoup communiqués actuellement. Nous, le choix qu'on a fait, le parti pris, c'était de s'orienter vers des objets déjà, en fait, tout ce qui est objet normé et certifié déjà existant sur le milieu industriel, pour concevoir un respirateur avec des pièces directement disponibles à l'échelle industrielle. Et donc déjà, on a déjà passé des certifications. Car quand on parle de la santé en général, le plus gros problème, ce n'est pas forcément déjà le système en lui-même, c'est déjà, est-ce que c'est déjà certifié au niveau santé ? Donc c'est pour ça que dans l'équipe, on est des ingénieurs, des designers, et on a aussi une partie, on va dire, médecins qui travaillent sur le terrain et qui sont capables de nous dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui constitue en termes de fonction un respirateur artificiel. Donc on a pris le parti, nous, de prendre quelque chose qui soit low cost et pas forcément low tech, plus low cost dans le sens où c'est quand même des choses qui sont un peu techniques. On va être sur un objet à la fin qui sera dans un coût estimé autour de 500 euros. Bon, à l'échelle de production d'un objet qui vaut plusieurs milliers d'euros, on est quand même hors de ça. L'idée, c'était de se servir des bases de données comme GrabCAD ou des bases de données 3D pour recomposer un système existant et de pouvoir fournir les plans au plus grand de manière open source. Donc là, on travaille actuellement sur la documentation de ce système. Notre logique à nous, elle est sur un objet qui fonctionne sur un système pneumatique. Il faut savoir que dans les hôpitaux, la plupart des hôpitaux sont occupés d'un réseau pneumatique. Mmh. Et l'idée, c'est que le réseau pneumatique, il est aussi reproductible sur un hôpital de campagne ou dans un modèle d'urgence avec un système de compresseur. Et donc, nous, on a imaginé ce système-là pour qu'il soit greffable et autonome, même en cas de panne électrique. C'est-à-dire qu'on l'a imaginé aussi avec un système de batterie, un relais batterie au cas où il y aurait une coupure de courant, qui permettrait de l'implanter aussi dans des milieux qui soient de fortune, quand on imagine une intervention d'urgence.
Ruraux ou bien véhicules sanitaires d'urgence.
Voilà. Voilà, c'est ça. Le principe, c'était, on s'est dit, on peut le greffer directement sur le réseau pneumatique d'un hôpital classique, et on peut recréer ce système-là avec un compresseur à air, bon, effectivement, qui sera agrémenté d'un filtre à air et d'un humidificateur d'eau. Hein,
oui, parce qu'un compresseur standard tel qu'on peut acheter chez Leroy Merlin, ça crache de l'huile et ouais, c'est et pas voilà. Extrêmement propre. Ouais.
Donc, faut bien sûr y appliquer des filtres pour filtrer toutes les particules. Et on peut imaginer que la partie oxygénation, on reprend un système classique de plongée avec un détendeur qui va permettre avec un anémomètre de pouvoir réguler la pression. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur un système pneumatique dans la régulation avec des capteurs qui vont pouvoir nous aider à contrôler les différents paramètres pour pouvoir mettre en place une assistance respiratoire.
Alors, comment on fait quand même pour arriver à construire? Parce que là, tu es confiné, tu es chez toi et,
oui.
et l'équipe est décentralisée. Comment on fait pour arriver à se coordonner sur un truc où ce n'est pas du code, ce n'est pas du Java, on n'a pas les tickets sur GitHub ou Jira? Comment tu fais pour visualiser en 3D et sur les retours, sur les contraintes qui sont propres quand même au service hospitalier?
Alors, on a un outil qui est assez fabuleux, et je pense que vous le connaissez tous. En tout cas, nous, on utilise Discord.
Aïe. C'est privatif. Mais oui, c'est un chat qui est surtout utilisé par les gamers, quoi.
Alors, oui, voilà, qui est à la base utilisé par les gamers. Donc, nous, on utilise ça parce que ça permet de streamer. Mmh. Bon, c'est pas mal. Donc, du coup, ça permet des fois, quand il y a des éléments à montrer, de montrer directement l'écran de l'autre pour savoir ce qu'il est en train de faire.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit banana for scale?
Non.
Tu connais pas le même, d'accord.
Non, je connais pas le même.
Bah, c'est très simple. C'est quand tu montres un objet, il y a quelqu'un qui dit montre-moi une banane pour l'échelle. Et en général, soit tu mets une banane gonflable d'un mètre, soit tu mets un petit bonbon Haribo.
Donc, vas-y. On a organisé le Discord déjà en plusieurs sections en fonction des besoins, parce qu'il y a une équipe qui travaille sur le code, une autre équipe qui travaille sur l'électronique. Moi, je travaille sur la partie, on va dire, conception 3D de l'objet et la partie documentation, mais documentation au sens assemblage. Donc là, je travaille sur la partie communication et assemblage, faire le mode d'emploi sur comment l'objet peut être assemblé. L'équipe qui travaille sur le code travaille sur la partie comment mettre, après, sur GitHub notamment, après le code disponible pour tout le monde. Au niveau de la conception, on a des fichiers partagés, c'est-à-dire on travaille sur Fusion 360 et on a un dossier 3D partagé. Et on a aussi un dossier Word sur lequel on assemble tous nos Word partagés qui nous permet d'assembler toute la documentation technique. Donc, en gros, on fonctionne en système de fichiers partagés. On se fait des calls à fréquence régulière, en général une fois le matin et une fois le soir pour suivre l'avancée du projet, savoir si tout le monde a réussi à avancer sur cette partie. Pour la partie concrète sur comment on fait, parce qu'il y a la partie partagée, où ça c'est l'interface et c'est le numérique. Sur la partie conception, il y a une partie de l'équipe, quand même, une grosse partie de l'équipe qui est basée à Paris. Et il y en a certains, en fait, qui ont déjà du matos pour coder, pour faire de l'électronique et qui avaient déjà du matériel sous la main. Il y a une partie du matériel qui est commandé et qu'on se fait livrer. Donc, il y a une partie qui assemble directement sur place. Et après, on essaie d'utiliser des plateformes de production collaboratives comme 3D Hubs et Protolab, par exemple. Mm-hmm. Des plateformes qui permettent de produire. Et quand on a des pièces sur mesure à faire pour tester, on utilise ces plateformes-là pour faire un appel à contribution pour produire, quand on n'a pas les moyens nous-mêmes.
On mettra tous les liens sur la page web de cette émission-là, cpu.pm/0134, pour avoir tous les éléments. Dans le secteur médical, est très demandeur, mais il y a aussi des réactions qui sont un petit peu, qui n'apprécient pas vraiment ces nouveaux entrants et ces bricoleurs. Et ce sont les fabricants. Il y a notamment donc l'hôpital italien, je ne sais plus, c'est Gênes, qui a demandé à des makers, qui a dit, notre fabricant a des valves qui sont jetables. Le problème, c'est que le fabricant n'a plus de valves en stock, ne peut plus nous fournir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si je me souviens bien, donc, le Fab Lab a contacté le fabricant pour demander leur plan 3D. Ils l'ont très mal pris, ils les ont menacés d'un procès et l'hôpital a dit « on s'en fout, on prendra le procès à notre charge, nous ce que l'on veut c'est plus vite, donc justement ces valves ». Est-ce que tu sais où c'est que ça en est de ce côté-là?
Alors non, parce que je n'ai pas suivi totalement l'affaire dans ce niveau-là, parce que là tu parles d'un domaine où justement là on commence à avoir beaucoup de visuels sur les initiatives, comme on dit, de makers, de Fab Lab, parce que là c'est là où ça représente bien l'idéologie du Fab Lab, la force de mettre en commun les savoir-faire et les compétences pour le mettre à disposition de tout le monde. Et donc c'est là où on commence à voir qu'il y a un clash qui est en train de se créer entre la partie les forces industrielles et les personnes qui œuvrent dans la partie, on va dire, open source. Le but, c'est de concevoir pour que tout le monde puisse y avoir accès. Chose que nous, on est dans ce mouvement-là, et il y a plein d'autres projets qui sont dans ce sens-là. On voit beaucoup, je reprends plus par rapport au projet sur lequel on est, nous, le respirateur artificiel. On voit des projets qui commencent à fleurir de la part des industriels. Et donc, du coup, on se dit... ils sont beaux, ils sont alléchants, on se dit il y a tout un tas de savoir-faire derrière. Et nous, du coup, la seule chose qu'on aimerait savoir, c'est comment c'est fait. Donnez-nous l'opportunité de comprendre comment il est fait, de manière à ce que si ça fonctionne, pourquoi nous on va pas perdre de temps à faire un truc pour concurrencer. C'est pas le but, c'est de la situation actuelle, elle impose que tout le monde puisse contribuer et mettre ses forces, ses compétences à disposition pour lutter. C'est une pandémie qui est en train de se passer. Donc là, il ne s'agit plus de penser à soi. Là, il s'agit avant tout d'essayer de mettre les forces en commun. Et que, bien sûr, si jamais un modèle industriel est plus efficient qu'une autre parce qu'ils ont tout le savoir-faire déjà existant et le patrimoine industriel, nous, on demande que ça, de pouvoir les aider à reproduire. Et si jamais on peut reproduire par impression 3D ou autre process de manière à aller plus vite. Et comme tu dis, il manque... peut-être 10 000 respirateurs artificiels en France, si nous, chacun, par petit groupe, on peut contribuer, ne serait-ce qu'à produire 500 par mois en plus de respirateurs, parce que le modèle fonctionne, allons-y, quoi. Et ça, le problème, là, c'est que les industriels ne veulent rien partager. À part peut-être, apparemment, Decathlon, qui a partagé, apparemment, le modèle de son masque.
C'est un masque de snorkeling, et donc c'est pour faire un masque, un respirateur FFP3, donc ça demande quand même une grosse part. Donc c'est pas pour faire un respirateur, c'est pour faire un masque protection.
Mais c'est déjà une initiative qui est louable quand on voit tout ce qui se passe autour de l'univers industriel.
Et c'est intéressant d'ailleurs, quand tu vois justement des grandes marques de magasins, de retail, comme par exemple le Roi Merlin, qui commencent à produire en open source des éléments qui puissent être remplaçables, et qu'on voit que Decathlon semble aussi s'y mettre. Je ne sais pas quel est le statut de ce côté-là, tu as regardé un peu ou non ?
Non, je n'ai pas. Non, après, c'est vrai que moi, toute la veille qu'on fait actuellement, c'est plus en rapport avec notre projet pour savoir si, en fait, s'il y a des projets qui avancent plus vite que le nôtre, qui sont sur la même ligne directrice que nous, s'ils sont plus avancés que nous, l'idée, c'est de se rejoindre. Au pire, de rejoindre un autre groupe plutôt que de faire les choses dans notre coin. Donc, on fait beaucoup de veille sur ce qui se fait. Et s'il y a des propositions de projets qui sont similaires et qui sont plus avancées, nous, on se propose, on propose nos compétences pour aider à finaliser les projets. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de projet qui était dans la même idée que la nôtre. Donc, c'est pour ça qu'on la continue. Mais on la partage beaucoup. On la montre à qui est intéressé. Et ça nous permet de faire avancer. Il y a des gens qui viennent donner leur avis, ne serait-ce que pour un élément. Et en fait, c'est ça qui fait avancer le projet.
Je tiens à terminer sur ce sujet. Attention, parce que c'est vrai que beaucoup de gens essaient de faire des masques lavables en FFP2. Ça ne se fait pas comme ça quand même avec les tissus. Il y a un standard qui est vraiment à respecter. Il y a vraiment de bonnes raisons. Donc, on voit plein de gens qui cousent avec un tissu un petit peu épais. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'AFNOR a donné tout un guide à télécharger gratuitement sur comment le concevoir, le construire et tout ça. C'est vraiment passionnant. Ça permet justement aux gens de pouvoir quand même s'y mettre. Là aussi, le lien est sur la page de l'émission. Et merci, Guillaume.